it's a natural element.
VOA Afrique, les infos. À Washington, Jacques Aristide.
Ravi de vous retrouver en ce mardi 24 mars 2015. Il est 13h en temps universel. Je commence par cette catastrophe aérienne. Un Airbus A320 de la compagnie Germanwings s'est écrasé ce mardi en France. L'avion qui reliait Barcelone à Düsseldorf transportait 142 passagers et 6 membres d'équipage. Le compte-rendu de Jean-Roger Billon.
Il n'y a aucun survivant dans le crash de l'Airbus A320 de la compagnie Germanwings, qui avait 148 personnes à bord, a déclaré à la presse le secrétaire d'État français au transport Alain Vidaliès, cité par l'AFP. Dans un communiqué, l'aéroport de Düsseldorf a toutefois indiqué ne pas disposer d'informations sur le nombre de victimes ou de blessés. L'appareil devait atterrir à Düsseldorf en fin de matinée, précise le communiqué. Le patron du groupe aérien allemand Lufthansa, Carsten Spohr, a indiqué pour sa part sur son compte Twitter ne pas savoir ce qui s'était passé. Le vol s'est écrasé près de Barcelonnette, dans le sud-est de la France. À Berlin, le ministère des Affaires étrangères a indiqué avoir mis en place une cellule de crise. Le président français François Hollande a exprimé son soutien à la chancelière Angela Merkel, qui l'a jointe au téléphone après le crash de l'avion.
Merci bien Jean-Roger. Toujours dans le cahier international, au Yémen, 5 personnes ont été tuées, 80 blessées aujourd'hui à Taiz, dans le sud-est du pays, quand des miliciens chiites ont ouvert le feu sur une manifestation hostile à leur présence dans la ville. Une information de l'AFP. Les manifestants protestaient pour la 3e journée consécutive contre la milice chiite des Houthis qui s'est emparée ce week-end de l'aéroport, d'un campement, des forces spéciales et d'autres installations à Taiz. Toujours au Yémen, les forces hostiles au président du pays tentaient ce mardi de resserrer l'étau sur Aden, la grande ville du sud, où est retranché le chef de l'État dont les partisans se mobilisaient pour enrayer leur progression. Des combats à l'arme lourde se déroulaient en milieu de journée dans les provinces de Dalé et de Lahedj, proches de celles d'Aden, rapporte l'AFP. Les forces favorables au président Abdrabo Mansour Hadi pilonnaient des positions des miliciens chiites houthis qui ont réussi à prendre le contrôle du complexe de l'administration locale à Dalé, chef-lieu de la province du même nom. Les États-Unis mènent des vols de reconnaissance afin d'aider les forces irakiennes dans leur offensive pour reprendre la ville de Tikrit au groupe État islamique. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui un haut responsable de la coalition internationale. Cette coalition, dirigée par les États-Unis, mène des raids aériens contre les IS et fournit formation et équipement à l'armée irakienne dans plusieurs régions d'Irak. Mais d'après l'AFP, c'est la première fois qu'un haut responsable de la coalition fait état d'une implication américaine dans l'offensive à Tikrit, la plus importante lancée par Bagdad depuis que les djihadistes se sont emparés de larges pans de territoire à la mi-2014. L'annonce impromptue par le Premier ministre britannique David Cameron qu'il ne briguerait pas un troisième mandat s'il est réélu en mai a pris de court ses amis politiques comme ses pairs opposants, avec le risque d'ouvrir prématurément la guerre de succession chez les conservateurs. D'après l'AFP, c'est dans la cuisine de sa résidence de l'Oxfordshire, sa circonscription, que David Cameron, 48 ans, a lancé cette bombe politique, dixit The Guardian, qui, comme l'immense majorité des médias britanniques, consacrait ce mardi sa une au sujet.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Dans l'actualité africaine, au Sénégal, Karim Ouad, l'ex-ministre et fils de l'ancien président Abdoulaye Ouad, condamné pour enrichissement illicite à 6 ans de prison ferme et une amende de 138 milliards de francs CFA par la CRI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite à Dakar. Un verdict qui a d'autant plus attiré l'attention que le prévenu a été désigné par le PDS, principal parti d'opposition, comme son candidat aux prochaines présidentielles. Comment Karim Ouad a-t-il réagi à sa condamnation? La réponse de Maître Cyril Clé d'Orly, l'un de ses avocats, au micro de Nicolas Pinou.
Il n'a pas été surpris parce qu'il savait dès le départ que la CRI avait été réactivée, rien que pour régler des comptes politiques. Que c'était un bras armé effectivement du pouvoir, que le dossier était monté en épingle et qu'il n'avait en fait rien à se reprocher.
Il a été nommé ce week-end par le bureau politique du PDS comme candidat pour la prochaine présidentielle. C'est quelque chose qui va être effectif selon vous?
La corruption était le chemin qui menait tout droit vers la privation des droits civils et politiques. Or, l'expert qui avaient été désignés par la commission d'instruction. Cet expert, en fait, avait déjà reconnu devant la CREI que son rapport ne se reposait sur absolument rien du tout. Bon, la CREI a retenu cela, donc la Cour était dans l'obligation effectivement de relaxer purement et simplement à Tariwab de le blanchir du délit de corruption. De sorte que la base légale sur laquelle l'on pouvait se fonder pour le priver de ses droits électoraux, civils et politiques, cette base légale l'on retenait que Tariwab jouit et jouira encore de ses droits civils et politiques.
Allez-vous vous pourvoir en cassation?
C'est déjà fait. Nous avons demandé, réclamé l'arrêt et les notes d'audience. Et le pourvoi sera déposé dès que nous aurons l'arrêt. Nous avons 6 jours pour nous pourvoir en cassation. Nous avons reçu le pouvoir de Karim Wade pour faire le pourvoi. Mais au-delà de cela aussi, il y a un combat à mener sur le plan international parce qu'il faut que la CREI disparaisse. Ce n'est pas une juridiction qui répond aux normes internationales sur l'organisation d'un procès équitable.
Dans l'actualité encore, en République démocratique du Congo, l'avocat de 7 militants congolais pro-démocratie arrêtés le 15 mars lors d'une rencontre internationale controversée à Kinshasa a déposé hier une plainte pour arrestation arbitraire de ses clients. C'est ce qu'a appris l'AFP auprès de la Défense. Lionel Gaïma fait le point.
Il s'agit d'une plainte contre inconnu pour enlèvement, arrestation arbitraire, détention et perquisition illégale, ainsi que pour violation des droits garantis aux particuliers, selon une copie de la lettre de Maître Sylvain Lemou adressée au procureur général de la RDC. Joint par téléphone, Maître Lemou a précisé que cette plainte visait à défendre ses 7 militants pro-démocratie arrêtés, mais que d'autres personnes restaient détenues sans pouvoir en indiquer le nombre ni l'identité. Parmi les militants qu'il défend figure Fred Bauma du mouvement Lutte pour le changement, Lucha, basé à Goma dans l'est du pays, et Miyangu Kiakwama Kiakiziki, membre du mouvement Filimbi et fils d'un député. Vendredi, l'appartement de ce dernier a fait l'objet d'une perquisition forcée, selon Maître Lemont. Dans son courrier, l'avocat demande au procureur des investigations et des poursuites pénales contre les responsables de ces arrestations arbitraires présumées. Après une motion du député d'opposition Gilbert Kiakwama, père du militant de Filimbi arrêté, une mission d'information doit être mise en place pour étudier toute l'affaire, a indiqué lundi sur Twitter un député du même camp, Juvenal Munubo.
Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la tuberculose, célébrée le 24 mars. Eh bien, l'Organisation mondiale de la santé appelle à soutenir une nouvelle stratégie sur 20 ans visant à mettre fin à cette maladie. D'énormes progrès ont été faits dans la lutte anti-tuberculeuse, signale l'OMS, avec plus de 37 millions de vies sauvées, mais il reste encore beaucoup à faire. Le point sur la nouvelle stratégie anti-tuberculose avec le docteur Mario Raviglione, directeur du programme mondial OMS contre la tuberculose.
Dans cette journée mondiale de la tuberculose, on a pensé de promouvoir la nouvelle stratégie contre la tuberculose pour la période 2016-2035 qui a été approuvée par l'Assemblée mondiale de la santé, c'est-à-dire par tous les ministres de la santé du monde le mois de mai de l'année passée. On est en train maintenant de clarifier tous les points et alors on a préparé un petit document qui clarifie la stratégie, quels sont les objectifs de la stratégie, quels sont les piliers de la stratégie. La stratégie est vraiment soutenue par 3 piliers. Le premier est ce qu'il faut faire pour le diagnostic, pour le traitement, pour la prévention de la tuberculose avec toutes les innovations possibles et la technologie possible. Le deuxième pilier est le pilier des systèmes sanitaires, des aspects sociaux qu'il faut mettre en place et des politiques sanitaires qu'il faut mettre en place pour essayer de faire fonctionner un programme de contrôle sur la tuberculose. Le troisième pilier est celui spécifique pour la recherche, parce qu'on reconnaît dans la stratégie de 20 ans qu'on ne pourra pas arriver à un niveau d'élimination si on n'a pas des nouveaux médicaments, des nouveaux vaccins et des nouveaux diagnostics qui seront disponibles à partir de la moitié des années 2020.
Le docteur Mario Raviglione, directeur du programme mondial OMS contre la tuberculose. Dans l'actualité encore, ici à Washington, le président Barack Obama reçoit son homologue afghan Ashraf Ghani aujourd'hui à la Maison-Blanche. Une entrevue qui a lieu alors que les États-Unis et l'Afghanistan discutent de l'avenir de la présence militaire américaine en territoire afghan. Le président Ghani et son chef de l'exécutif Abdullah Abdullah ont déjà eu hier des consultations avec de hauts responsables américains, dont le secrétaire d'État John Kerry. Et puis Michel Platini a été reconduit par acclamation pour un 3e mandat de 4 ans à la présidence de l'UEFA à 59 ans mardi lors du 3e. troisième congrès de son instance à Vienne. L'ex-triple ballon d'or avait accédé pour la première fois au poste en 2007 sur un score serré face au président sortant, Lennart Johansson. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité.
Soyez au cœur de l'info